Chapitre 11. Le passé de Paul a raison de vivre. Antoine Labre, baron d'Arcis, père de Jean et de Paul, était un gentilhomme poitevin, de moyenne noblesse et de médiocre fortune, qui, après avoir combattu la République en Vendée et en Bretagne jusqu'à la capitulation de Babylaye, avait passé en Angleterre puis gagné les Antilles. Il avait belle tournure et se comportait dignement. Les Labres d'Arcis, en Poitou, passaient pour une race de patriarches. Vers le milieu de l'Empire, Antoine Labre, par les qualités de son cœur et aussi pour un joli talent qu'il avait comme valseur, obtint l'affection d'une riche créole de bonne maison, très belle, très riche, très indolente, très charitable et ignorante jusqu'au miracle des choses que nos sœurs et nos filles apprennent en France tout naturellement. C'est le terroir, paraîtrait-il. J'ai connu des créoles délicieuses qui seraient mortes de faim s'il leur avait fallu apprendre à manger. D'autres, il est vrai, sont étonnamment âpres à l'école dès qu'il s'agit de cette terrible éducation qui perdit notre mère Ève. Ce sont d'adorables femmes. Le ménage d'Antoine Labre fut heureux tant qu'il valsa au gré de sa femme et que vécut son beau-père, un planteur de beaucoup de sens qui faisait admirablement ses affaires. Quand ce brave homme de planteur fut mort, le diable entra dans la maison sous forme d'avocat, d'avoué, d'huissier et de notaire. Le planteur laissait trois filles, ce qui donnait trois gendres. Aux colonies, les hommes de loi n'y vont pas de main morte. Le partage coûta 50% et laissa de très beaux germes de procès. Vous savez comme toute graine pousse sous ce généreux soleil tropical, mais aucune autre graine ne grandit si vite et si bien que la semence des procès. Vous diriez une féerie. Avec un avocat, un notaire, un avoué, les plantations fondent comme du sucre dans de l'eau. Antoine Labre avait un fils. Il eut peur, voyant arriver la ruine, et la pensée lui prit de regagner la France où venaient de rentrer les Bourbons. Sa femme, enceinte d'un second enfant, n'y mit aucun obstacle. Elle était vraiment bonne et charmante. Elle ne tenait à rien, pas même à ses amis. Une fois pourtant, son mari lui ayant conseillé de ne point passer des nuits entières à jouer avec quelques jeunes femmes de sa connaissance un jeu créole où l'on gagnait quelque argent, mais où l'on en perdait beaucoup, la jolie baronne se fâcha et pleura bien plus fort qu'à la mort du planteur, son père. Je voudrais savoir ce jeu créole pour l'apprendre à quelques chers amis qui s'acharnent aux lansquenets tressés de baccarat. Cela varierait leur plaisir. Il est certain que ce jeu créole était pour quelque chose dans le désir qu'Antoine Labre avait de quitter la Martinique. Ce jeu avait aidé beaucoup à l'œuvre des hommes de loi. Antoine Labre pouvait avoir raison de fuir, seulement il se pressa trop. Aux colonies, il ne faut jamais rien laisser quand on part, c'est la règle. Non pas du tout que les gens y soient plus malhonnêtes qu'ailleurs, mais parce que la mer est large. Aussitôt qu'on a laissé quelque chose aux colonies, le rôle des hommes d'affaires commence à prendre de redoutables proportions. Il faut que tout le monde vive. Que Dieu me préserve de blesser les gens d'affaires des colonies. Parmi eux, il peut y avoir des saints. Mais depuis que j'existe, j'entends toujours conter la même sinistre légende, la légende du colon dévoré par son homme de confiance. À Saint-Domingue, les hommes de confiance tuèrent plus de blancs que les nègres eux-mêmes. Antoine Labre avait tant de hâte de revoir son pays qu'après avoir réuni 200 000 francs pour une part empruntée, il donna la régie de ses établissements à un personnage aussi habile que sûr et s'embarqua. Sa femme accoucha de Paul pendant la traversée. Un fait singulier eut lieu. La naissance de Paul sembla développer ou plutôt finaître en elle le sentiment maternel. Elle avait aimé Jean, qui était alors un joli bambin d'une dizaine d'années, dans la mesure de sa paresse morale. Elle adora Paul. Son mari, étonné et charmé, crut qu'il allait avoir enfin une femme au lieu de cette gracieuse végétation qui fleurissait dans un coin de sa maison. Ils arrivèrent à Paris au premier jour de la seconde restauration. Antoine Labre était un digne caractère. Il crut devoir abandonner les bienfaits de la cour à ceux qui en avaient plus besoin que lui, et se tint à l'écart de ce fameux gâteau de l'indemnité dont les partis exagérèrent si adroitement l'importance. Son seul désir fut d'entrer dans l'armée, où il obtint un grade honorable. Et vraiment, les commencements de sa vie en France furent remarquablement heureux. Il reçut une fois 2000 louis de son homme de confiance, avec prière, il est vrai, de ne pas oublier les intérêts des sommes empruntées là-bas. D'un autre côté, ses deux enfants prospéraient. Le petit Paul devenait joli comme un amour, et cette charmante baronne, trop éloignée désormais des amis créoles qui jouaient avec elle ce jeu dont j'ai oublié le nom, prenait des habitudes d'intérieur et passait ses journées entières auprès du berceau de son dernier né. Il ne faut pas allonger une histoire de ce genre, le fond en est par trop connu. Chacun a pu rencontrer en sa vie au moins un colon réintégré et radotant les mérites de son homme de confiance. Chacun aussi sait bien que ce colon finit par trouver en France un personnage secourable qui prend en main ses intérêts. Les colonies n'ont pas le monopole de la vertu. Alors c'est entre ces deux mandataires habiles et sûrs, un duel régulier dont tous les coups passent au travers du corps de leur victime connue. Le personnage secourable rencontré par Antoine Labre fut un jeune praticien, alors fort à la mode et nommé Monsieur Lecoq. Ce n'était pas un avocat, c'était mieux que cela, un sorcier. Sa boutique ne désemplissait pas et le meilleur monde parisien s'adressait à lui dans les circonstances délicates. Ce monsieur Lecoq en savait long, et bien des gens parlaient de lui avec respect. Il avait d'ailleurs la brusquerie de certains médecins en vogue. Quand un bourgeois s'impose aux gens de qualité, rien ne lui fait une si bonne tenue que son air commun réuni à un quantum sufficit de sans-gêne brutal. Antoine Labre eut le bonheur de rencontrer monsieur Lecoq vers 1825, au lendemain d'une grande déception. Son mandataire colonial venait de lui envoyer un compte définitif très bien fait, selon lequel lui, Antoine Labre, loin d'avoir quelque chose à réclamer, restait débiteur d'une somme considérable. En 10 années, les peines et soins de l'homme habile et sûr, les procès et les intérêts d'une 60 000 francs avaient produit, grâce à une culture assidue, un déficit d'un 500 000. Monsieur Lecoq était à ses débuts. Il ne dédaignait pas encore les petites affaires. Il aimait d'ailleurs à s'introduire chez les gens titrés, et tout en donnant d'excellents conseils au baron, il devint fort assidu auprès de la baronne, laquelle tout doucement avait trouvé à remplacer ce diable de dieu créole dont j'ai oublié le nom par d'autres jeux plus connus en France. Elle n'était plus déjà la bonne dame de la première jeunesse, et l'avenir de son petit Paul l'occupait. Elle était joueuse jusqu'au bout des ongles, comme beaucoup de natures endormies. Le jeu est la passion des indolents. Comme la fortune ne s'était jamais montrée prodigue de caresses envers elle, une idée fixe la tenait. Elle se figurait que la veine retardée jaillirait enfin quelques jours avec une miraculeuse abondance. Et elle jouait tant qu'elle pouvait à tout et partout. Elle jouait au réversi, au boston, à Fontainebleau, au whist, au nain jaune, à l'écarté, à la bouillotte. Elle mettait à la loterie. Elle avait elle aussi un homme de confiance qui jouait pour elle à Frascati. Pour elle, monsieur Lecoq avait la bonté de piquer la carte à la bourse. Antoine Labre n'était pas aveugle. Néanmoins, il ignorait à quelle profondeur la folie, en apparence paisible, de sa femme avait déjà creusé le précipice. Quand il l'apprit, il était à la veille d'entreprendre un voyage à la Martinique pour avoir raison de son intendant colonial. Monsieur Lecoq avait conseillé ce voyage. Encore une fois, c'est de parti pris que nous abrégeons cette histoire. Elle est à la fois trop ancienne et trop moderne. Elle était banale déjà sous la Restauration. Hier, elle emplissait les colonnes des journaux. Il ne faut jamais aller demander des comptes aux hommes habiles et sûrs qu'on a laissés là-bas. Dans ce cas spécial, on assassine volontiers aux colonies. Antoine Labre ne revint pas de son voyage. La pauvre baronne aimait son mari, elle avait besoin de son mari. On ne sait où peut aller une femme semblable, privée de guide et de soutien. Si elle se fut mise franchement sous la tutelle de Jean, son fils aîné qui atteignait l'âge d'homme, tout aurait pu encore être sauvé, mais vis-à-vis de Jean, elle était jalouse de son autorité à cause de Paul, son vrai, son véritable amour. Elles ont des raisonnements bizarres. La baronne se dit que tant de malheurs devaient user la mauvaise chance. La veine allait peut-être être d'autant plus riche qu'on l'avait plus cruellement attendue. La baronne vendit pour jouer d'abord son indigent superflu, ensuite ce qui était pour elle et ses enfants le strict nécessaire. Dieu eut pitié de Jean, qui fut nommé élève consul et partit pour une lointaine résidence. Jean aimait son jeune frère Paul tendrement, malgré les maladroites préférences de leur mère. La meilleure part de ses appointements passa en France dès qu'il eut acquis une petite position. Cela servit à nourrir des ternes et à engraisser des martingales. Monsieur Lecoq, cependant, qui grandissait à mesure que tombait la misérable maison Labre, et qui, certes, ne pouvait tirer de la baronne aucun profit important, ne l'abandonnait point. Il lui restait fidèle et flattait constamment sa passion. Pourquoi ? Nous n'avons pas à recommencer son portrait que nous avons peint en pied dans les habits noirs. Il ne fera que glisser dans ce récit. C'était un philosophe. Une fois, il avait mis un billet de 1000 francs dans la main d'un pauvre diable, tout exprès pour troubler une conscience hésitante, se créer un complice involontaire et acheter à 100 000% de rabais l'influence qui devait le rendre maître d'un des plus clairs esprits de la finance moderne. Ces 1000 francs semés devaient fleurir en une gerbe de millions illustres sous la raison sociale, baron, Jean-Baptiste Schwartz et compagnie. Chaque action de Lecoq avait un but. Ici, le but de Lecoq nous échappe en partie, sans doute parce qu'il fut manqué. Encore pouvons-nous deviner. La baronne cachait Lecoq à son fils, elle avait honte. Paul Labre nous a dit, dans sa lettre à son frère, qu'il ne connaissait pas Lecoq. Mais Lecoq le connaissait. Lecoq connaissait tout le monde. Cet étrange travailleur du mal, populaire dans les bas-fonds de la vie parisienne, sous son nom de Toulonnais l'Amitié, notable parmi les classes aisées sous l'espèce de Monsieur Lecoq de la Ferrière, avait encore d'autres noms. La source où je puise donne à entendre qu'il laissa une trace profonde dans l'organisation mixte tentée par la police du règne de Louis-Philippe. On essaya, sous ce roi, de dresser des loups à la chasse pour battre la forêt de Paris. Entre ces loups, il en est un dont le nom est légendaire. Avec un peu de bonne volonté, il nous serait facile de croire que M. Lecoq était ce loup. Paul Labre nous l'a dit dans sa dernière confession. Pour lui, son mystérieux patron, M. Charles et M. Lecoq, étaient le même homme. Or, M. Charles, de son vrai nom, s'appelait V. Quoi qu'il en soit, les faits prouvent que M. Lecoq avait cru découvrir en Paul Labre une nature énergique et audacieuse, puisqu'il avait fait effort pour l'engrener dans sa mécanique en qualité de rouage. Autant que possible, dans toutes les classes de la société, il glissait ainsi un organe appartenant à sa machine. Si Paul Labre avait voulu, il serait devenu un personnage important à la préfecture, mais Paul Labre n'avait pas voulu. Quoi qu'on lui eût appris peu de choses dans son enfance et que, de sa petite jeunesse, il se fût éloigné volontairement du monde pour n'entendre point parler de sa mère, il avait trouvé une sauvegarde dans sa fière nature. On l'avait tué pour le dehors, on n'avait pas pu le déshonorer dans son propre cœur. Nous avons rapporté ici toutes ces choses parce que Paul Labre les pensait, ce soir, en suivant la ligne des quais tristement, après avoir dit adieu à Thérèse Soulas. Il ne songeait certes plus à l'homme qu'il avait croisé dans l'ombre à la descente de l'escalier tournant. Cet homme lui avait dit « Par hasard, ne seriez-vous pas Monsieur Paul Labre ?» Et Paul avait répondu « Non », ajoutant lui-même « À quoi bon, je n'ai plus affaire à personne ?» Certes, tandis qu'il marchait tête baissée, il n'avait déjà plus aucun souvenir de cette rencontre. Il allait, perdu dans la suprême rêverie des gens qui veulent mourir. Le passé renaissait pour lui dans ses moindres détails. Il faisait l'inventaire de sa vie qui avait commencé brillante pour se ternir peu à peu et descendre toujours. Il voyait ce qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps peut-être, la mélancolie noble de son père. Il cherchait un sourire sur ce pâle visage de soldat. Il n'en trouvait point et murmurait « C'est vrai, jamais mon père ne souriait. Le malheur est bien vieux chez nous. » Et son frère, c'était un souvenir confus, il se disait « Jean est heureux, que Dieu le bénisse ». Et sa mère, oh sa mère, lui emplissait le cœur. elle avait été la ruine, mais elle l'aimait si bien. Le vice honteux, et tout près d'être grotesque qu'il avait perdu, disparaissait pour Paul. Il voyait cette douce figure qui s'animait à son aspect, reflétant un cœur qui n'adorait que lui. Quand il était tout petit, on appelait sa mère Madame la Baronne. Elle allait en voiture, elle avait des valets, elle était élégante et belle. Et puis la voiture disparut, les valets aussi, on ne disait plus que Madame Darcis, dans ce petit appartement du faubourg Saint-Germain, d'où son père était parti pour le dernier voyage. Puis on loua un logement, on fut Madame Labre tout court. Et puis enfin, on monta à cette mansarde d'une maison malfamée de la rue de Jérusalem, et il y avait des gens qui disaient « la mère Labre ». Dieu merci, elle était morte, et Paul allait mourir. C'était une belle nuit un peu nuageuse. La lune, souvent cachée, se montrait tout à coup par intervalles et voguait, paisible, dans des lacs d'azur. La ville le vivait et bruissait encore tout alentour, mais le long des quais, il y avait déjà un grand silence. Le croiriez-vous, Paul Labre revint par trois fois à cette maison qui touchait par ses arrières à la rue Harlay du Palais, la maison à deux étages du quai des Orfèvres où il y avait cette silhouette de jeune fille, Isole. Quelque chose l'attirait là, il se laissait aller. Il n'avait ni peur ni hâte de mourir, il était sûr de lui-même, il savait qu'il ne faiblirait point au dernier moment. Il aimait, et il y avait autre chose que cela, c'était son amour pour Isole qui lui avait dit « Tu ne peux plus vivre ». La troisième fois qu'il s'approcha de cette maison où était sa suprême pensée, il vit des ombres le long du quai et dans la rue de Harlay. Il s'éloigna et ne revint plus. La vue de ces hommes, qui étaient évidemment là en embuscade, n'avait du reste rien éveillé en lui. Rien ne lui importait plus. Il fuyait les hommes. Il déboucha sur le pont neuf et alla vers le parapet sur lequel il s'assit. Il regarda l'eau, brillantée par les rayons de la lune. Il resta là un quart d'heure. C'était à peu près le moment où Pistolet grimpait sur le mur du jardin de la préfecture pour guetter le marchef. Paul Labre quitta le parapet et traversa le terre-plein. Il enjamba la clôture fermée qui défendait de nuit l'entrée de l'escalier conduisant au bain Henri IV. Il descendit. Pendant une demi-heure, il se promena lentement sous les arbres de l'île. Puis, à un moment où la lune se voilait, il se dit « C'est assez, finissons ». Et il se mit à l'eau froidement, comme un baigneur. Il pensait toujours. Le nom d'Isole lui vint aux lèvres. Sur la pente douce, il ne perdait pas pied. Au moment où l'eau lui arrivait aux aisselles, il crut ouïr une rumeur confuse sur le pont neuf et tourna la tête machinalement. Il ne vit rien. Il était tout à fait à la pointe de l'atterrement. Mais il entendit un bruit flasque et doux, comme si un objet enveloppé de ouate fût tombé à l'eau de la hauteur du parapet. Il fit deux pas de plus, et l'eau toucha sa bouche. « Adieu, dit-il. À qui allait cet adieu ?» Ses lèvres avaient un sourire. Il perdit plante et ne nagea pas. Paul Labre mourait comme on s'endort, par fatigue pure, sans regret ni colère. Quand il revint à la surface, comme fait tout corps humain, avant de prendre sa position définitive entre deux eaux, il respira et ouvrit les yeux, laissant ses bras inertes le long de ses flancs. La lune resplendissait au ciel. Un bruit de chute, tout différent de celui qu'il venait d'entendre, se fit au même endroit, sous le pont neuf. Et presque immédiatement, un second bruit fut suivi d'un troisième. C'était le marchef et Pistolet qui commençaient leur pleno. Malgré lui, Paul fit un mouvement de nageur qui mit sa tête au-dessus du niveau. Comme la première fois, il n'aperçut rien, parce que l'ombre formait une large bande tout le long du pont, mais presque aussitôt après, un objet blanc se détacha du noir et flotta, immobile et suivant le courant. Paul hésita. Son parti n'était pris qu'à demi, il n'avait plus affaire à personne. Et néanmoins son bon cœur se serra à l'idée de laisser périr une créature humaine qu'il pouvait sauver si aisément. « La nuit est longue encore, se dit-il. Je mettrai la pauvre créature sur la rive et j'aurai encore tout le temps d'en finir. » Pour lui, l'homme blanc était une femme, soutenue par sa robe bouffante. Seulement, il s'étonnait de ne l'entendre point crier. Il s'allongea sur l'eau et se mit à nager en contrariant le courant qu'il avait porté déjà à 100 pas de la pointe de l'île. L'objet blanc flottait toujours, mais il allait évidemment en diminuant et semblait s'enfoncer avec lenteur. Comme presque tous les enfants de Paris, Paul était un nageur. Au lieu de l'effort indifférent et paresseux qu'il avait fait naguère, il tendit ses muscles, donna du jeu à son mouvement et surmonta par une coupe puissante la dérive qui l'entraînait. Au bout de 10 minutes d'effort, il atteignit, à la pointe même de l'île, l'objet blanc, qui allait sombrant et qui ne laissait plus au-dessus de l'eau qu'un rond étroit, semblable à un ballon gonflé d'air. Paul le saisit. Au premier contact, il vit qu'il ne s'était point trompé, c'était une femme ou un enfant. Mais si c'était une femme, elle n'avait pas été soutenue par le ballonnement de sa robe. Il y avait là un crime. On l'avait jetée à l'eau, littéralement empaquetée, et comme l'enveloppe était de soie, c'était le paquet lui-même qui avait fait ballon, perdant son air avec lenteur, mais s'enfonçant toujours de plus en plus. Il n'eût pas fallu 3 minutes désormais pour que son contenu devînt le cadavre d'une noyée. Paul aborda à la pointe de l'île et dénoua vivement le paquet. Les rayons de la lune frappèrent le pauvre doux visage de Suavita qui avait les yeux fermés et ressemblait à une gracieuse statue de vierge décédée. « Une petite fille, » murmura Paul, qui frissonnait sous ses vêtements mouillés et ne s'en apercevait point. « Quel pauvre joli ange ! Et ils ont eu le cœur de l'assassiner !» Comme nous le savons, Suavita avait été prise par le marchef sur son lit de repos. Elle était à peine vêtue. Paul, en découvrant sa frêle poitrine, fut pris d'un immense sentiment de pitié. Puis tout son sang eut froid parce qu'il la crut morte. Il tâta ses mains et ne put juger parce qu'il était glacé lui-même. Néanmoins, ses mains si déliées et si douces lui semblèrent inanimées. Il la pressa contre son sein afin de la réchauffer. Son cœur à lui battait, mais celui de l'enfant restait immobile. « Au secours ! » cria-t-il sourdement et sans savoir. L'île était déserte à cette heure de la nuit. Pour réponse, il n'eut que le morne clapotement de l'eau qui murmurait en frôlant la rive. Il éprouva un moment d'indicible angoisse à l'idée de son ignorance et de son impuissance. Il ne savait que faire, de grosses larmes jaillirent de ses yeux. Et puis tout à coup il poussa un cri de joie, souleva l'enfant avec force et se mit à courir de toute sa force en la tenant toujours serrée contre sa poitrine. « Maman Soulas, » disait-il, « je n'avais pas pensé à Maman Soulas. » Celle-là était un brave et digne cœur, elle saurait bien trouver ce qu'il fallait pour secourir la jeune fille. En 1 minute, il eut traversé toute l'île et gagné l'escalier qui monte au terre-plein de Henri IV. La clôture l'arrêta un instant, il avait si grand peur de blesser sa fillette, car elle l'était à lui, et Dieu sait qu'il vous eût malmené si vous lui eussiez parlé de mourir maintenant. La mort est bonne pour ceux qui n'ont affaire à personne, pour ceux qui n'ont rien à défendre ni à aimer. Il avait cet enfant, lui, Paul, qui s'était résigné à ce que, vous savez, pour soulager la détresse de sa mère. Paul, qui était tout dévouement et tout amour, il avait cet enfant, elle lui venait de Dieu. Aussitôt qu'il eut franchi la clôture, il reprit sa course à travers le pont, puis le long du quai des Orfèvres. Il ne touchait pas terre. L'escalier, tournant de la rue de Jérusalem, fut franchi 4 à 4 et il arriva, haletant, à la porte de Madame Soulas. C'est là qu'était le salut. Paul ne prit pas même le temps d'appuyer sa main contre sa poitrine révoltée et dans laquelle il sentait un feu. Il frappa à grands coups de poing à la porte de Thérèse en criant « Madame Soulas, ma bonne maman Soulas !» Madame Soulas était en ce moment sur la route de Saint-Germain, emportée par le trop cahotant de Marion, poison, qui n'avait pas de mine mais qui allongeait comme une reine. Paul Labre frappa de nouveau et plus fort. L'idée ne lui venait pas que Madame Soulas pût être hors de chez elle à cette heure. Il s'étonnait de n'avoir point de réponse. La bonne femme connaissait si bien sa voix. Après sa mère, c'était elle qui l'avait le mieux aimée. Quand il comprit enfin que frapper était inutile, les bras lui tombèrent et il fut saisi par une sorte de terreur. « C'est maintenant qu'elle est morte, » pensa-t-il tout haut. « Moi, je ne sais rien, je ne peux rien. » « Vous allez donc la tuer à la fin, maman Soulas ? » s'écria-t-il, avec un désespoir naïf qui eût fait rire certaines gens, mais qui aurait mis des larmes dans les yeux de bien d'autres. Toujours le même silence. Paul prit sa propre clé et entra dans sa chambre. Il n'avait plus de courage. Ce n'était pas en lui-même qu'il avait espéré. Il déposa l'enfant sur son lit et alluma un flambeau. Il fut longtemps à faire cela. Ses mains maladroites lui refusaient service. Il hésita avant de porter la lumière sur les traits de la fillette. « Ah, si maman Soulas avait été là, murmurait-il, je n'aurais pas peur de la voir si pâle, car elle l'aurait sauvée. » Il avait raison de craindre. Son premier regard rencontra une morte. La pâleur de la pauvre Suavita avait des tons bleuâtres. Ses chairs, touchées par la lumière, semblaient transparentes. Partout où le marchef, puis Paul lui-même, l'avait étreinte tour à tour pour la porter, sa peau délicate montrait de larges meurtrissures, non point rouges, mais livides. Ses blonds cheveux mouillés, collés à ses tempes si frêles, n'en cachaient point entièrement les marques sinistres. Elle avait les yeux demi-ouverts, on n'y voyait plus de prunelles. Paul rendit un grand soupir. Il eut le courage de toucher après avoir vu. La rapidité de sa course l'avait réchauffé jusqu'à la fièvre. Au contact de ce corps humide, froid, il chancela sur ses jambes tremblantes. « J'ai voulu me tuer, dit-il, Dieu me punit. » Il s'accroupit sur le carreau et resta immobile, tenant toujours son flambeau à la main. « Pourquoi n'est-elle pas là ? » murmurait-il comme un fou. « Jamais elle ne s'absente. Où peut-elle être ? Et que faire, que faire ?» Son regard éperdu parcourut la chambre, cherchant, il ne savait quoi. Dans la chambre, il n'y avait rien, pas même un peu d'eau. Il avait l'habitude de tout prendre chez sa bonne voisine. Que faire ? Il se traîna jusqu'au lit et mit sa main sur le cœur de l'enfant. Quelque chose battait là, mais si faiblement. C'en fut assez, il se leva. Il reprit Suavita dans ses bras, il la réchauffa comme sa mère aurait fait. Il passait de la terreur à l'espoir, sans cause. Puis l'épouvante revenait en lui, plus terrible. « Froide, toujours froide, dit-il, avec une soudaine colère. Il me faut quelqu'un, j'aurai quelqu'un. » Il la déposa sur le lit et s'élança au dehors. Ces gens du numéro 9, il ne les connaissait pas. Qu'importe, il frappa à tour de bras au numéro 9. La maison était donc abandonnée, point de réponse non plus de ce côté. Paul lança un coup de pied dans la porte, qui s'ouvrit aussitôt parce que M. Badois, en sortant, ne l'avait point fermée à clé. Paul entra. Dans cette chambre triste et vide, il ne vit rien de ce que les autres avaient vu, mais il aperçut du premier coup d'œil une bouteille posée à terre, près de l'endroit où le panneau replacé cachait le trou. Il prit la bouteille, qui était vide, mais qui, renversée, laissa tomber dans le creux de sa main quelques gouttes d'eau de vie. Ces gouttes, il les apporta précieusement dans sa chambre et en frotta le visage de Suavita, dont les lèvres blanches donnèrent passage à un léger souffle. Alors vous ne l'auriez pas reconnu, ce vaincu de naguère. Il se redressa comme un pauvre qui aurait gagné le gros lot de 100 000 francs et prit sa tête entre ses mains pour réfléchir, car une joie désordonnée lui faisait bondir le cœur. Il se sentait devenir fou d'une autre manière. Un transport d'allégresse montait à son cerveau. Elle vivait, elle allait parler, elle allait sourire. Le résultat de ses réflexions ne se fit pas attendre. Il sortit pour la seconde fois sur le palier et y prit à pleine brassée du bois et du charbon qu'il empila dans sa petite cheminée. Il y avait de quoi mettre le feu 10 fois à la maison. Il introduisit la lumière sous un tas de copeaux qu'il avait amoncelés par devant et bientôt une flamme brillante pétilla. Alors Paul arracha les draps de son lit et les approcha du foyer au risque de les flamber. Ses mains n'avaient plus de maladresse, il travaillait bien, il allait vite. Ce fut avec un sentiment de respect pieux, mais aussi avec cette volupté dont frissonnent les doigts de la jeune mère, changeant l'enfant bien-aimé, qu'il dépouilla ce pauvre petit corps glacé de ses vêtements encore humides pour l'envelopper doucement dans le premier drap chaud. Il sentait bien cette fois le bien qu'il allait produire. Il éprouvait ce bien en lui-même. Son cœur était réchauffé en même temps que ses membres frêles et gracieux, où la chaleur allait ramener la vie. Suavita, en effet, au bout de quelques minutes, poussa un second soupir, bien faible encore, puis ses paupières battirent imperceptiblement. Paul, qui la contemplait en extase, crut voir un peu de rose sous la peau diaphane de ses joues. Il étendit le second drap sur le lit et, développant sa chère enfant, sa fille, on peut le dire avec précaution, il la coucha toute moite d'une douce chaleur entre les deux toiles tièdes. Puis il arrangea la couverture et, avec soin, il drapa le bord du lit, il disposa l'oreiller, il était heureux plus qu'un roi. Et il avait déjà des fantaisies d'homme heureux, l'ambition le prenait. Il se surprit à dire « Ah, je donnerais n'importe quoi pour savoir son nom ». N'importe quoi. Voyez ce faste, n'avait-il pas assez de la voir vivre et de la sentir respirer? Elle ouvrit les yeux cependant, et son regard vague se fixa devant elle. Ses lèvres remuèrent sans laisser échapper aucun son. Paul écoutait passionnément, attendant une parole qui ne devait pas venir. Il hésitait à parler lui-même. « Vous sentez-vous mieux ? » demanda-t-il enfin d'une voix mal assurée. Il eut mieux fait de ne point oser. Suavita tressaillit de tous ses membres, et une indicible terreur se peignit sur son visage contracté. Ses lèvres s'agitèrent encore, on eût dit qu'elle voulait pousser un cri, un appel. Aucun son ne sortit. « Je vous en prie, » murmura Paul, désolé, « ne vous effrayez pas. » Elle ferma les yeux, sa pâleur de morte était revenue. Paul, désormais, retenait son souffle. Il pensait, « Malheureux que je suis, c'est l'épouvante qui l'a tué, et moi je vais renouveler ses frayeurs. » Pendant plus d'une minute, il resta immobile et silencieux. Par degrés, Suavita se calmait. Après une autre minute écoulée, une nuance rose, moins fugitive, monta aux pommettes de l'enfant, qui leva ses deux bras à la fois et appuya ses mains sur son front dans une attitude pensive. Les pauvres êtres qui ont perdu la raison font souvent ce geste qui trompe. Il est cruel à voir. Chez Suavita, il était empreint d'une inimitable grâce. Elle ouvrit les yeux lentement, et lentement elle les tourna vers Paul, dont le cœur cessa de battre tant l'émotion le domptait. C'étaient de grands yeux, d'un bleu obscur. Leur morne prunelle, en se fixant, donnait une sensation de froid. Paul eut peine d'abord à soutenir ce regard de folle, mais bientôt ce regard changea d'expression. Si ce n'eût été là une chose insensée, Paul aurait juré que la fillette le reconnaissait, car il y eut sous les longs cils de sa paupière immobile un rayonnement doux et recueilli. Une nuance d'étonnement passa parmi cette émotion inexplicable, et puis l'enfant eut comme un vague sourire. Ses longs cils retombèrent, la tête pesa davantage sur l'oreiller, le souffle s'égalisa et devint plus bruyant, tandis que la respiration amenait des perles de moiteur sur le fond ravivé. Suavita s'était endormie et toujours tournée vers Paul, récompensé au centuple par son dernier regard. La nuit était désormais fort avancée. La première fois que Paul écoute à l'heure, cinq coups tintèrent à l'horloge de la Sainte-Chapelle. Au dehors, les bruits de Paris naissaient. Paul ouvrit sa fenêtre parce qu'une odeur de linge brûlé emplissait la chambre. Le feu avait gagné les copeaux jetés tout autour du foyer, puis la chemise de l'enfant que Paul avait mise à sécher sur les chenets. Il ne donna pas grande attention à l'accident. On pouvait pardonner au feu cette fredaine, il avait fait tant de bien. Paul revint s'agenouiller près du lit et n'en bougea plus. Il n'avait pas changé de vêtements. À vrai dire, depuis son retour, sa pensée ne s'était pas tournée un seul instant vers lui-même. Son linge et ses habits avaient séché sur son corps. Une heure se passa, et puis deux. Le grand jour inondait la chambre de Paul, et Madame Soulas, sa voisine, n'était pas encore rentrée. Paul songeait à elle quelquefois, car la bonne dame avait part à ses calculs. C'était sur elle qu'il comptait pour donner à sa protégée ses soins qui n'appartiennent qu'aux femmes. Mais il songeait surtout à l'enfant. Dans sa pensée, et en attendant qu'elle pût dire son nom, il l'appelait Blondette. Depuis que le premier rayon du matin avait fait resplendir l'or de ses admirables cheveux. Blondette dormait toujours, elle dormait bien, son sommeil était calme, presque souriant. Depuis quelques instants, Paul souriait aussi, il souriait à un rêve. Au-dessus de cette tête enfantine et blonde, une autre tête se penchait, brune et tout autrement belle. Le cœur de Paul éprouvait un trouble où il y avait du plaisir et de la souffrance. C'était la première fois que la pensée d'Isole venait le visiter depuis qu'il avait voulu mourir, et la pensée d'Isole amenait toujours en lui cette double sensation d'angoisse et de volupté. Il murmura « Ce pauvre ange serait-il de trop entre nous deux ?» Puis il sourit, songeant avec amertume « Que lui importe ce qui se passe dans le grenier d'un inconnu ? Elle l'aime. » Il eut froid. De toute la nuit, il n'avait pas ressenti ce frisson qui lui perçait les os maintenant. Il tâta ses vêtements qui étaient secs. En touchant le côté droit de sa poitrine, sa main rencontra, à travers l'étoffe de sa redingote, un papier dans sa poche. Il le retira sans empressement. C'était la lettre à lui donner la veille au soir par Madame Soulas, et qu'il n'avait même pas regardée. À cette heure où il n'avait plus affaire à personne, il poussa un cri aussitôt que ses yeux eurent effleuré l'adresse. « De mon frère » s'écria-t-il, « de mon frère bien-aimé, Jean !» Le cachet sauta, et Paul poursuivit, le rouge de la joie au front. « Embarqué pour la France, il arrive !» Il se leva tout droit en ajoutant « Il est arrivé, arrivé d'hier soir !»